Direct en jeu, la radio insolite. Il y a des moments de bonheur, des moments merveilleux en début d'année. Et là, je suis obligé, je n'ai pas le choix, de souhaiter un bon anniversaire à mon invité de ce matin. Bon anniversaire, Claire. Alors, vous devez vous demander pourquoi je souhaite bon anniversaire.
Merci Alain. 50 ans au musée, c'est pas rien.
Ah non, 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 mais attendez, pourquoi on parle des 50 ans? On va parler d'abord des 6 ans.
Merci, c'est très gentil. Oui, ça fait 6 ans, effectivement. Je les ai fêtés le 2 janvier dernier. Ça fait 6 ans que j'ai la chance de diriger l'Ugdounou Musée Théâtre Romain.
Ouais, alors, pour information quand même, avant de découvrir cet temps fort important, puisque vous avez encore, alors j'insiste sur le encore, pulvériser des records pour 2024, ça n'arrête pas de progresser. Déjà, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, non? Parce que d'après ce que je sais, vous avez un master en archéologie, vous êtes diplômée de l'école du Louvre et de l'Institut National du Patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai très tôt aimé les musées, j'ai très tôt aimé le patrimoine, la culture, pour tout ce qu'ils permettent de transmettre, finalement, en termes de connaissances, d'émotions, de recul par rapport à des sujets aussi de société. Et très vite, je me suis dit que je voulais faire ce métier et travailler, donc j'ai tout fait pour. Donc le parcours d'études très classique, hein, École du Louvre, Sorbonne à Paris 4 en archéologie orientale, ma spécialité.
Très classique, hein, si je puis me permettre.
C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment le parcours qu'il fallait avoir en fait, pour pouvoir passer son cours de conservateur du patrimoine. Alors depuis, il y a une plus grande diversité, et c'est très bien justement dans la profession, des personnes d'horizons très différents. Et j'ai la chance de côtoyer du coup des collègues en fait avec des parcours très très riches. Et donc j'ai voulu y travailler très tôt et j'ai passé ce concours de conservateur du patrimoine. J'ai eu la chance de pouvoir travailler 5 ans au musée du Louvre, au département d'archéologie orientale, avec plein de projets passionnants, aussi bien au sein du musée qu'à l'international, avec les scieries notamment. Et puis ensuite j'ai pris mon premier poste de direction pour les musées de la ville de Compiègne dans l'Oise, dans les Hauts-de-France. Et après j'ai souhaité rejoindre en fait ce musée parce que je trouvais qu'il avait un très fort potentiel dans une très belle région qui est Lyon, et puis toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec tout potentiel, le bassin de population fabuleux en fait qu'on peut attirer sur un musée de site comme celui-là, et puis tous les projets qu'on peut y développer avec une très belle équipe de 80 personnes.
Justement, ma première réaction quand j'ai vu votre pédigré, je me suis dit, mais quand on a été au musée du Louvre, qui est entre guillemets une vitrine mondiale, qu'est-ce qu'on vient faire comme meilleur à l'Ugdounou?
Alors moi, ce que j'aime bien dans les musées territoriaux, c'est la liberté d'action.
Ouais.
Évidemment, le Louvre, c'est une fabuleuse école en fait pour apprendre le métier. Il y a des collections absolument fabuleuses. On rencontre plein de monde et moi j'ai vraiment appris beaucoup en fait sur mon métier en lien avec la conservation, l'exposition et toutes les actions en direction des publics. Ce que je souhaitais après, c'est en territorial, effectivement ce qu'on appelle la fonction publique territoriale, c'est pouvoir mener un peu ma barque et proposer des choses. Ce que j'aime bien dans les musées que j'ai dirigés, c'était pouvoir notamment travailler énormément sur la notion d'accessibilité. Pour tous en fait, une accessibilité universelle, c'est-à-dire je viens au musée comme je suis et je m'y trouve bien et j'apprends des choses, je viens avec ma petite valise, on vous la remplit un petit peu plus en fait. Et du coup cette question de l'accessibilité pour moi elle est essentielle dans des musées sur lesquels on va avoir un petit peu plus de liberté d'action parce que forcément c'est une moins grosse en quelque sorte entreprise faite à mettre en œuvre, c'est une équipe à échelle humaine. C'est un territoire en fait qu'il est plus facile aussi de maîtriser et de comprendre. Et j'aime bien cette liberté qu'on aura nécessairement moins dans des très grosses structures en fait, comme le musée du Louvre, même si je lui dois beaucoup.
D'accord. Alors je tiens quand même à préciser aux auditeurs qu'en ce qui me concerne, en 3 ans, j'ai mis plus souvent les pieds à l'Ugdounou, notre musée gallo-romain, qu'en 30 ans, depuis que je suis arrivé à Lyon. Et ça, c'est... Je vais vous accuser, c'est votre faute, Claire, si je puis me permettre. Parce que ce qui peut-être expliquer ce record de fréquentation, c'est toutes les activités que vous proposez tout au long de l'année. Par contre, je voudrais juste revenir sur un truc qui m'a un peu surpris. Pour moi, l'Ugdounou a toujours été, comment dire, c'est musée et théâtre romain. Mais c'est original parce que dans le site internet, on trouve une présentation en disant un musée de site. C'est un peu étonnant comme présentation.
Alors oui, un musée de site, c'est bien ce qu'est en fait l'Oudono Musée de Théâtre Romain, et je dirais même de site au pluriel. Parce qu'en fait, quand ce musée il a été conçu, à partir des fouilles hein, des théâtres antiques dans les années 30, très vite ont émergé des projets de musée. Et en fait, quand on parle de musée de site, en fait, en France, c'est un musée qui est lié au site où ont été découverts les vestiges que l'on expose, en fait. Donc c'est un ensemble. Les deux en fait sont liés. C'est une politique qu'on a beaucoup développée hein, ces 6 dernières années, c'est-à-dire de créer davantage de liens entre le musée et le site. On n'a pas terminé. Je vous parlerai de projets à venir qui vont être notamment inaugurés cette année. Et le but ça a été de développer une programmation sur ce site, de le faire vivre en fait en lien avec le musée, notamment lorsqu'on fait les journées européennes par exemple de l'archéologie au mois de juin avec de l'archéologie expérimentale sur le site. On a une programmation estivale aussi sur le site qui est importante l'été. Et puis, on a également le Festival Romain qui a connu sa 4e édition donc l'année dernière et qui permet aussi de corréler en même temps une approche finalement d'activité ludique, éducative, ouverte à tous et en même temps de découvrir à la même occasion le musée, donc de renforcer ce lien. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je parle de musée de site, parce qu'effectivement, l'Oudono Musée Théâtre Romain, à partir du moment où vous entrez dans l'enceinte finalement des théâtres antiques, vous êtes un visiteur, vous êtes une personne qu'on accueille, qui peut venir pour plein de raisons différentes, découvrir les vestiges, découvrir le musée, et passer du temps sur le site, agréable, pique-niquer, se promener, faire son jogging. Mais à chaque fois, on vous accueille avec plaisir, et on a accueilli 1 million. Comme ça, de personnes sur le site des théâtres antiques. En fait, ça en fait le premier site archéologique le plus visité en France.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer par ce foisonnement de grands événements qu'il y a eu en 2024 qui fait que vous avez explosé la fréquentation ? Je voulais juste rappeler les chiffres. En 2023, c'était juste 158 397 visiteurs. Il y avait 30% d'augmentation par rapport à l'année 2022. Et de 158 000 visiteurs, vous êtes passé à 169 000 visiteurs en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer ce record ?
Alors l'année 2024, elle a été marquée par plusieurs temps forts et des expositions. En fait, on a fait l'exposition Les Aventures de Bricius Maximus, l'expo en briques Lego.
Oh, Lego dans un musée antique.
Et en fait, alors ça, oui, justement, ça c'était un beau pari en fait, parce que c'était l'idée, c'est de partir aussi de maquettes, de reconstitution, en fait, avec un jeu. De manipulation qui est Lego, qui est très populaire, qui est vraiment redevenu à la mode. Et du coup, de travailler avec un comité scientifique, hein, comme toutes nos expos, c'est-à-dire qu'on a des experts, des archéologues, des chercheurs, qui ont travaillé du coup avec des passionnés de Lego pour reconstituer en maquette finalement le paysage du lieu antique, notamment jusqu'à des monuments qui sont totalement inconnus finalement du public, comme le sanctuaire, le fameux sanctuaire des Trois Gaules, en fait, qu'on s'est permis de reconstituer en fait en briques Lego et qui donne une autre dimension à la ville antique. Et donc cette expo s'est tenue d'octobre 2023 à juin 2024 et elle a accueilli 150 000 visiteurs. Elle était construite autour d'un récit d'aventure et d'espionnage. Et elle mêlait en fait à la fois des œuvres antiques et des maquettes en Lego. Il y en avait une bonne trentaine, donc 4 qu'on avait commandées spécifiquement sur Lyon. Je vous ai parlé du sanctuaire, et on a fait l'Ac du Bugey par exemple aussi. On a fait un secteur d'habitat et de boutique juste à côté du musée rue des Farges par exemple. Et ça permettait finalement à travers ce jeu, ces jouets en fait en quelque sorte, de parler finalement des aspects structurels et de la vie quotidienne au sein de l'Empire romain au IIe siècle de notre ère, à l'époque de son extension maximale. À cela, en fait, on a rajouté beaucoup d'événements qui ont attiré plus de 45 000 personnes. Alors, en particulier sur le site, comme je vous disais, ça c'est important, ce sont des événements aussi à vocation familiale. Donc, on a fait la Nuit européenne des musées au mois de mai. On a surfé aussi sur les Jeux olympiques, puisqu'on a fait les JO des Romains au mois d'avril, avec la reconstitution de scores antiques gréco-romains sur le site archéologique. C'était vraiment très sympa, en plus c'était beau ce jour-là. Le Festival européen Latagrec, qui s'est un peu plus investi, installé effectivement à l'Oudono depuis 2 ans et qu'on continue à développer à leur côté. Les Journées européennes de l'archéologie, qui avaient une nouvelle formule aussi l'année dernière, puisque on a souhaité mettre davantage en valeur finalement les collections, les métiers du musée. Le public découvre un peu le off d'un musée d'archéologie et puis de mettre de l'archéologie expérimentale avec des machines de guerre en fait sur le site des théâtres antiques en extérieur. C'était très sympa. Et donc, le Festival Romain, aussi sa 4e édition, qui a attiré 20 000 personnes à lui tout seul en 2 jours. Cette fréquentation en fait du musée, elle s'explique un petit peu par toutes ces activités auxquelles en fait s'ajoute bien sûr l'accueil de tous les publics, des plus jeunes avec des petits ateliers comme Look Doudou, on peut commencer un bébé déjà au musée, jusqu'à 100 ans et plus. On mêle des activités de médiation culturelle, de visites guidées, d'ateliers. Et on a ouvert, là, l'octobre dernier, une exposition qui s'intitule Un empire des peuples, qui durera jusqu'au 1er juin 2025 et qui bénéficie d'un partenariat exceptionnel avec le Musée du Louvre, une trentaine d'œuvres exceptionnelles, notamment qui viennent aussi bien des antiquités grecques et romaines, mais également orientales. Notamment de Palmyre, en Syrie. Et cette exposition, en fait, elle plonge le visiteur au sein de l'Empire romain. Elle parle de multiculturalisme, de mélange des cultures, des langues, des religions, et la question, c'est comment, finalement, toutes ces cultures ont cohabité au sein d'un empire gigantesque, au IIe siècle. Et en fait, pour que ça soit un peu plus humain, plus abordable, on est parti du portrait de 6 personnages qui ont réellement existé, que l'on connaît grâce à leurs inscriptions dans nos collections. 3 hommes, 3 femmes, et qui ont eu des destins qui se sont croisés en fait à Lyon dans leur vie et qui ont mené en fait des carrières, des trajectoires différentes, complémentaires, mais qui à elles seules finalement résument assez bien la formule du bon fonctionnement en fait de l'Empire romain lors de la Pax Romana.
Et puis il y a une chose importante aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a évolué, c'est que le musée est maintenant très interactif. C'est-à-dire que le visiteur ne fait pas que visiter et regarder, il peut toucher, il peut agir. Vous avez parlé pas mal d'ateliers, pas mal d'activités assez intéressantes. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, le nerf de la guerre.
Oui, on est très attentif, justement, cette notion d'accessibilité, elle passe par une vraie accessibilité intellectuelle et sensorielle. Et quand on fait des expositions, on essaye de se mettre à la place du visiteur. On a un observatoire des publics, hein, d'ailleurs, pour cela, avec un sociologue qui nous permet d'analyser, en fait, les besoins du public, ses attentes, son attitude aussi dans une exposition. On mène des questionnaires, par exemple, et on sait que à notre époque, on a besoin d'avoir effectivement des contenus qui soient le plus accessibles possible. Et donc, on va multiplier les supports, c'est-à-dire qu'on va bien sûr passer par des textes, mais courts, écrits, relus par un comité de lecture aussi pour qu'ils soient accessibles et compréhensibles. On va utiliser également, en fait, énormément d'infographies, hein, dans l'exposition temporaire actuelle. On l'utilise beaucoup, on a beaucoup aussi d'aspects sensoriels pour les publics notamment à handicap, mais tous finalement, on peut toucher des facsimilés, on peut comprendre quel était le paquetage d'un soldat romain qui est intégralement reconstitué, on peut investir la mallette d'un commerçant en fait qui transposait en fait, qui transportait des produits finalement d'Asie jusque dans la partie occidentale de l'Empire. Tissus, perles, épices, etc., et comprendre un petit peu comment fonctionnaient ces échanges au sein de l'Empire. Et c'est tous ces éléments cumulés, avec aussi des petites boîtes audio, des petites cellules audio, avec un compteur, qui s'est amusé finalement un peu à romancer ces différentes vies, de personnages dans l'exposition qui permettent de l'appréhender un petit peu comme on souhaite, par les 5 sens. Et puis d'y passer le temps que l'on souhaite y passer aussi. Ça, c'est important en autonomie, tout comme on peut choisir un atelier ou une visite guidée si on souhaite en connaître davantage.
Le 15 novembre, ça va être les 50 ans du musée. Alors, si on parle du théâtre gallo-romain, je suppose que ça fait plus que 50 ans quand même. Mais il va y avoir des festivités particulières, il va y avoir une année un peu conséquente pour marquer le coup de ces 50 ans.
Oui, on est en train de concocter une programmation pour fêter ça, qui débutera à l'automne prochain. Donc, c'est effectivement les 50 ans de l'inauguration en fait de ce musée qui a été bâti par l'architecte Bernard Zerfus, qui était Grand Prix de Rome et qui a fait ce projet un peu exceptionnel de musée semi-enterré qui permet de préserver aussi les vestiges des théâtres antiques. On a plusieurs choses qu'on va mettre en place, cette programmation, et puis on va aussi profiter de cette occasion pour faire connaître finalement au public un projet qu'on mène depuis 2, 3 ans, qui est un projet en fait de valorisation des sites archéologiques, c'est-à-dire qu'il y aura en fait un mobilier pédagogique installé sur l'ensemble des sites dont on a la gestion, en commençant par les théâtres romains. Donc l'ensemble des sites dont on a la gestion, hein, pour petit rappel, en fait, c'est sur la colline, ce sont des sites qui racontent en fait l'antiquité romaine, l'habitat, les thermes, voilà, les monuments funéraires, le transport aussi de l'eau via les aqueducs, par exemple, en plus des théâtres romains. Donc l'ensemble de ces sites auront un mobilier pédagogique, une petite aire de jeu aussi pour enfants. Et puis sur ces mobiliers pédagogiques, dont le contenu est une reconstitution en 3 dimensions, en fait, par exemple du théâtre antique tel qu'il était au IIe siècle, avec des spectateurs, on pourra comparer l'avant et l'après. Et il y aura une petite web app qui permettra après de se connecter via un QR code et d'avoir un peu plus d'immersion, c'est-à-dire d'être vraiment dans le spectacle ou dans les thermes, par exemple romains. Comme un visiteur et de comprendre comment il fonctionnait, avec de l'animation, des repères en fait cartographiques, des repères dans le temps et l'espace, et puis un jeu de géocaching avec les Niolus, si vous connaissez, c'est une application de visite qui est assez géniale. Moi, je l'aime beaucoup, je la pratique beaucoup en famille, sur le territoire notamment du Rhône, et qui permet finalement d'avoir un petit jeu de questions avec un parcours. Donc, qu'on vous a concocté sur la colline, avec des points de vue, avec des vestiges, avec des parcs, il y a un peu de topographie assez sympa pour se promener. Et donc, à l'issue de ces réponses à ces questions, on a une petite récompense. Voilà. Et ce jeu fonctionne très, très bien, en fait, dans la région, et permet au public familial, adulte, d'appréhender finalement l'histoire d'un territoire par le jeu. C'est ludique, c'est très accessible. Donc cet ensemble sera montré, livré en fait au public à l'horizon du mois d'octobre 2025, et on déclinera ensuite ce parcours et ses mises en valeur sur l'ensemble des sites archéologiques jusqu'au printemps 2026.
D'accord, donc ça fait un joli petit programme et tout. Et évidemment, on retrouvera les journées du patrimoine, on va retrouver quand même les journées archéologiques, on va retrouver le festival romain, on va retrouver tout ça. Comment on fait pour avoir plus d'infos sur le musée?
Alors, pour avoir plus d'infos, il suffit d'aller sur le site internet voilà, Grand Lyon, le dounoumgrandlyon.com, qui va vous donner à peu près toute notre actu et puis la thématique aussi de notre prochaine exposition en octobre qui sera sur l'art et le patrimoine, justement en lien avec les 50 ans du musée qui traite de la même question de l'art et la transmission du patrimoine de nos jours.
D'accord, ben moi je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous présenter tout cela. C'est vrai que ça permet de découvrir le musée d'une manière un peu différente. Merci à vous, puis bonne journée.
Merci, bonne journée également.